Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons ensemble dans cette fin de semaine pour la dernière lecture du roman de Richard Brautigan, Le monstre des Hauklein. Pendant ce temps, en bas, dans le laboratoire au-dessus des cavernes de glace, tout était très tranquille. Seul le mouvement d'une ombre se devinait. Cette ombre existait à peine en tant que forme. Pourtant, par moments, l'ombre semblait presque devenir forme. Cette ombre approchait alors la limite du défini, parfois même du reconnaissable, puis elle redevenait abstraite. D'étranges appareils encombraient le laboratoire. Certains inventés par le professeur Hauklein, des milliers de flacons pleins de produits chimiques étaient posés sur de grandes tables de travail, ainsi qu'un accumulateur servant à produire de l'électricité, là, en plein milieu des Dead Hills, où l'on n'avait jamais rien connu de tel. Le laboratoire était glacial. Le grand froid provenait de la proximité des cavernes de glace qui s'étendaient juste en dessous. Plusieurs poêles de fonte étaient nécessaires pour dégeler le laboratoire lorsque les sœurs Hauklein y venaient pour travailler et tenter de résoudre le mystère des produits chimiques. Aucune lumière habituelle n'éclairait cette pièce. Pourtant, une vague clarté provenait d'un lieu qu'on ne pouvait encore situer avec exactitude. Il fallait évidemment une source de lumière pour qu'il puisse exister, cette ombre qui, pareil à un jeu d'enfant, s'amusait à flotter entre la réalité et l'abstraction. Puis la lumière devint un point précis, et l'ombre dépendit alors de l'endroit d'où venait la lumière, un grand cristallisoire grillagé plein de produits chimiques. Ce cristallisoire représentait la réalité et l'œuvre de la vie du professeur Hauklein. Avant de disparaître, il avait placé toute sa foi et son énergie dans ses produits chimiques. Ce travail devait maintenant être complété par ses deux filles splendides couchées pour le moment dans les chambres du haut avec deux tueurs professionnels. Et ses filles se demandaient pourquoi diable elles étaient parties baiser avec ces deux hommes alors que le cadavre tout récent de leur maître d'hôtel, géant, le bien-aimé, restait étendu seul dans le vestibule sans qu'on eût même pris la peine de le recouvrir. Des produits chimiques dans le cristallisoire étaient composés de centaines d'éléments différents apportés des quatre coins du monde. Certains de ces produits chimiques étaient fort anciens et très difficiles à obtenir. Quelques gouttes avaient même été recueillies dans une pyramide égyptienne qui datait de 3000 ans avant Jésus-Christ. On y trouvait aussi des extraits distillés provenant de jungles d'Amérique du Sud et des gouttes de plantes situées à la limite des neiges éternelles de l'Himalaya. La Chine antique, Rome, la Grèce avaient contribué également à emplir ce cristallisoire. La sorcellerie, la science moderne, les découvertes les plus récentes y avaient trouvé une place, un élément remonté même au temps de l'Atlantide. Il avait fallu une énergie et un génie immense pour faire régner l'harmonie entre le passé et le présent dans ce cristallisoire. Seul un homme possédant le talent et la foi du professeur Hauklein pouvait avoir assemblé tous ces différents corps en parfaite collaboration. Il est vrai qu'il y avait eu cette toute première erreur qui avait provoqué le départ du professeur Hauklein et de sa famille de la côte Est, mais ce mélange initial avait été jeté dans les cabinets et le professeur était reparti de zéro dans les collines de Dead Hills. Dès lors, il avait tout minutieusement contrôlé. Et le résultat de ses expériences sur les produits chimiques promettait pour l'humanité un avenir meilleur et plus beau. C'est alors que le professeur Hauklein avait lancé le courant électrique de son accumulateur à travers les produits chimiques, produisant ainsi cette mutation origine de l'épidémie de farce malicieuse qui avait éclaté dans le laboratoire avant de se répandre dans toute la maison pour y altérer la qualité de la vie. Tout avait commencé par l'apparition de parapluies noires dans les coins les plus improbables du laboratoire. Puis celle des plumes vertes répandues un peu partout. Un jour, une part de tarte flottait au plafond. Le professeur s'était mis à réfléchir longuement sur des choses sans importance. Ainsi, une fois, il avait pensé à un iceberg pendant plus de 2 heures. Auparavant, il ne s'était jamais attardé plus de quelques instants sur un iceberg. Puis ce furent ses vêtements volatilisés, laissant les demoiselles Hauklein toutes nues et d'autres bêtises trop idiotes pour qu'on en parle. Parfois, le professeur pensait à son enfance pendant des heures, mais peu après, il était tout à fait incapable de retrouver ce qu'il avait pensé. Puis un beau jour, un monstre horrible se mit à hurler et à marteler de grands coups la porte de fer qui séparait les cavernes de glace du laboratoire. Ce monstre était si fort qu'il arrivait à ébranler la porte. Le professeur et ses filles ne surent que faire. Ils n'osaient pas ouvrir la porte. Le lendemain, une des sœurs Hauklein descendit dans le laboratoire pour apporter le déjeuner du professeur. Lorsqu'il était en plein travail, il n'aimait pas remonter prendre ses repas. Il poursuivait avec acharnement et dévotion ses recherches pour rétablir l'équilibre des produits chimiques, alors que le monstre hurlait de temps en temps en donnant de violents coups de queue dans la porte. Sa fille trouva la porte des cavernes de glace ouverte. Et le professeur disparut. Elle alla jusqu'à la porte et cria dans les cavernes : « Papa, où es-tu, papa ? Viens !» Un son horrible jaillit de la profondeur des cavernes et s'approcha de la porte de Miss Hauklein. La porte fut immédiatement verrouillée et l'une des sœurs, habillée en indienne, partit pour Portland chercher des hommes discrets capables de tuer le monstre. Elle voulait en effet réparer l'erreur commise par leur père sans attirer l'attention publique et achever son expérience sur les produits chimiques de façon conforme à ses désirs et pour aider le genre humain. Mais elles ignoraient que le monstre n'était qu'une illusion créée par la mutation d'une lumière dans les produits chimiques, lumière qui avait le pouvoir d'imposer sa volonté à l'esprit et à la matière, changeant la nature même de la réalité pour mieux l'adapter à son esprit malicieux. Cette lumière dépendait des produits chimiques pour survivre, tout comme un bébé avant de naître dépend du cordon ombilical pour dîner. La lumière pouvait quitter les produits chimiques pour de courts moments, mais elle devait toujours y retourner pour se revitaliser et dormir. Les produits chimiques étaient en quelque sorte le restaurant et l'hôtel de la lumière. La lumière pouvait prendre des formes variables. Et elle possédait la compagnie d'une ombre. Cette ombre était une mutation bouffonne totalement dépendante de la lumière et qui détestait le rôle qui lui était assigné. Elle préférait se souvenir des jours anciens où l'harmonie régnait dans les produits chimiques et où le professeur Hauklein chantait des airs à la mode. Tout en versant une goutte de ceci et une goutte de cela dans les produits chimiques, dans l'espoir d'un monde meilleur, sans comprendre que chaque goutte le rapprochait du jour où il ferait passer le courant à travers les produits chimiques, provoquant ainsi le malheur et détruisant à jamais l'harmonie des produits chimiques, et que bientôt ce malheur s'abattrait avec toutes sortes de possibilités diaboliques sur lui et ses charmantes filles. Bon nombre des composants des produits chimiques n'étaient pas satisfaits de ce qui s'était passé depuis que l'électricité les avait traversés et que s'était déclenchée cette mutation d'où avait jailli le mal. Un de ces corps avait réussi à se séparer complètement du mélange. Il était très mécontent de la tournure qu'avaient prise les événements après la disparition du professeur Hauklein. Il aurait préféré aider l'humanité et rendre les gens heureux. Ce corps pleurait souvent maintenant et restait tout seul près du fond du cristallisoire. Naturellement, d'autres corps de nature fondamentalement mauvaise étaient ravis d'être débarrassés de la politique de bon voisinage du professeur. Ils trouvaient follement divertissante la terreur absurde infligée par la lumière, car c'était elle, le monstre, sur les Hauklein et leurs invités. La lumière possédait des facultés illimitées et elle les utilisait avec orgueil. Son ombre en était profondément écœurée et la suivait de très mauvaise grâce en traînant les pieds. Chaque fois que le monstre des Hauklein quittait le laboratoire, se glissait en haut de l'escalier et passait comme une flaque de beurre fondu sous la porte de fer qui séparait le laboratoire de la maison, l'ombre avait envie de dégueuler. Si seulement le professeur était encore là. Si seulement il avait échappé à son terrible destin, il serait encore en train de chanter « Moi et Marie O'Rourke, on est les rois du rock sur les trottoirs de New York ». Greer et Cameron, et les sœurs Hauklein, encore un peu mystifiées par leurs propres sentiments, remirent leurs vêtements et se retrouvèrent dans un salon de musique situé au même étage que les chambres dans lesquelles ils venaient de faire l'amour. Greer et Cameron posèrent leurs armes sur un piano. Miss Hauklein descendit faire du thé et le remonta sur un plateau d'argent et ils s'assirent dans le salon de musique au milieu des clavecins, des violons, des violoncelles, des pianos, des timbales et des orgues. Le salon de musique était immense. Pour aller faire du thé, Miss Hauklein avait dû contourner le cadavre du maître d'hôtel géant écroulé dans le vestibule. Greer et Cameron n'avaient jamais bu de thé auparavant, mais ils décidèrent d'en goûter. Après tout, pourquoi pas? Avec tout ce qui se passe d'insolite dans cette énorme maison jaune, invraisemblable, au point de sembler respirer et dressée sur ces cavernes de glace qui s'enfonçaient telles des longs crocs gelés dans la terre. Greer et Cameron avaient voulu s'occuper du cadavre du maître d'hôtel géant dès qu'ils ne furent plus retenus par les corps bien vivants des demoiselles Hauklein, mais celle-ci avait insisté pour prendre du thé, avant de résoudre le problème du maître d'hôtel, toujours étalé comme une île dans le vestibule. Un feu récemment allumé brûlait dans la cheminée du salon de musique. « Aimez-vous le thé ?» demanda Miss Hauklein. Elle était assise à côté de Greer sur un canapé devant une harpe.
« Oh, c'est différent !»
répondit Greer. « Et vous, Cameron ?» demanda l'autre Miss Hauklein.
« Ça ne ressemble pas au café, » répondit Cameron.
Il compta les instruments de musique dans la pièce. 18. Ensuite, il dit à Miss Hauklein, la plus proche de lui,
« Vous avez ici suffisamment d'instruments de musique pour fonder un orchestre. »«
Tiens, nous n'y avions jamais songé, » dit Miss Hauklein.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon
burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Room was bare, he didn't see her anywhere. He told himself he didn't care, pushed the window open wide, felt that emptiness inside to which he just could not relate, brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock, walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Richard Brautigan, Le monstre des Haukline. Que va-t-on faire du cadavre du maître d'hôtel ? Demanda Cameron.
C'est un problème, dit Miss Haukline. Il va nous manquer. Nous l'aimions comme un oncle, il était si bon, énorme mais doux comme un papillon.
Il faudrait d'abord le sortir du vestibule, dit Cameron, parce qu'il y gêne vraiment le passage.
Ouais, on devrait le déplacer, dit l'autre Miss Haukline.
Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant de s'asseoir ici pour boire ceci ? Demanda Cameron, en regardant sa tasse de thé d'un air dégoûté. Il semblait évident que Cameron ne serait jamais converti au plaisir du thé.
« Je pense qu'il faudrait l'enterrer, » dit Miss Haukline, après quelques secondes de réflexion.
« Il faut d'abord le sortir du vestibule pour pouvoir l'enterrer, » dit Cameron.
« Justement, » ajouta l'autre Miss Haukline, « et puis il nous faudra un cercueil, » dit Miss Haukline.
« Deux cercueils, » dit Cameron.
« Sauriez-vous, messieurs, fabriquer un cercueil ?» demanda l'autre Miss Haukline.
« Bah, répondit Greer, on fabrique pas des cercueils, on les remplit. »«
Je crois que nous attirerions trop l'attention si nous en faisions fabriquer un en ville, » dit Miss Haukline.
« Oui, nous ne voulons pas que les gens viennent s'intéresser à nos affaires, » dit l'autre Miss Haukline.
« Certainement, » ajouta Miss Haukline, buvant une gorgée de thé avec délicatesse.
« On va le mettre dehors, » dit Greer.
Il suffit de creuser un trou, de le mettre dedans, de le recouvrir, et voilà.
Il ne faut pas l'enterrer trop près de la maison, dit Cameron. Le sol y est complètement gelé et j'aimerais mieux me faire enculer que de creuser un trou d'aussi grande taille dans une terre gelée.
On creusera un trou plus loin, on le tirera jusque-là et on le videra dans le trou, dit Greer.
Comme c'est triste de penser en ces termes à notre excellent monsieur Morgan, dit Miss Hawkline. Je croyais bien qu'il vieillissait et qu'il finirait par mourir un jour, car la mort est inévitable, mais je n'avais jamais songé au problème posé par l'énormité de son corps. On ne pense pas à ce genre de choses.
Vous vous imaginiez qu'il deviendrait nain après la mort ? Demanda Cameron.
Comme il descendait l'escalier pour s'occuper du maître d'hôtel et l'installer dans son lieu de repos éternel, un trou dans la terre, ils passèrent devant la porte d'une pièce où se trouvait un billard. Un billard magnifique, sous un lustre de cristal. Lorsque, peu avant, Greer et Cameron étaient montés baiser les sœurs Hawkline, cette porte était fermée.
« Tiens, un billard !» dit Cameron, qui tenait une carabine.
Il s'arrêta pour admirer le billard.
« Oh, voilà un superbe billard! On pourra peut-être y jouer quand on aura enterré le maître d'hôtel et tué le monstre. »«
Ouais, ce serait amusant de jouer au billard une fois le travail fini, » dit Greer, la Krag 30-40 en bandoulière et le pistolet automatique à la ceinture. « Et puis, quel beau lustre !» ajouta Cameron, regardant le lustre en question.
Le soleil passait par les fenêtres et illuminait la pièce. Des rayons de lumière se concentraient sur le lustre qui réfléchissait le billard en délicates fleurs vertes. Mais une autre lumière jouait aussi parmi toutes ces fleurs de cristal, suspendues comme un jardin touffu au-dessus de la table. Cette lumière se déplaçait avec délicatesse parmi les cristaux, et une ombre pataude et enfantine la suivait. L'espace d'une seconde, Greer crut voir un mouvement dans le lustre. Il cessa de regarder le billard et il fixa le lustre. Oui, il y avait bien une lumière au milieu des cristaux, et cette forme sombre et maladroite suivait cette lumière.
Il se demanda comment cette lumière pouvait se déplacer dans le lustre. Aucun des cristaux ne bougeait, ils étaient tous parfaitement immobiles.
« Une lumière bouge dans le lustre, » dit-il, entrant dans la pièce pour mieux voir. « Elle doit être une réflexion provoquée par quelque chose dehors. »
Il alla à une fenêtre regarder dehors, il vit le givre entourer la maison sur une centaine de mètres et s'arrêter brusquement tandis que l'été régnait plus loin sur la prairie des Dead Hills.
Greer ne vit rien dehors qui puisse provoquer ce mouvement dans le lustre. Il se retourna. La lumière avait disparu.
« Elle a disparu, » dit-il, « bizarre. »
Il n'y avait rien dehors, pourtant.
« Pourquoi se soucier d'un reflet ?» demanda Miss Hawkline.
« Nous avons un maître d'hôtel mort allongé dans le vestibule, il faut s'en occuper. »«
Simple curiosité, » répondit Greer, « si je suis encore en vie, c'est uniquement parce que je suis d'un tempérament très curieux. »«
Faut jamais s'endormir. »
Il jeta encore un coup d'œil sur le lustre, mais l'étrange lumière avait disparu.
Il ne savait pas que la lumière se cachait sur le billard à côté d'une poche en compagnie de son ombre.
« Cette lumière avait quelque chose de familier, » dit Greer. « Je l'ai déjà vue quelque part. »
La lumière et l'ombre retenaient leur souffle, tandis que Greer sortait de la pièce.
Comme il descendait l'escalier en spirale qui menait au rez-de-chaussée, Miss Hawkline dit à sa sœur,
« Il est arrivé une chose bizarre. »«
Quoi ?»«
Très étrange. »«
Ah !»« Greer et Cameron suivaient les sœurs Aucline. Elles se déplaçaient avec une grâce exquise, et Greer et Cameron, fascinés, en subissaient l'enchantement. Les deux sœurs descendaient l'escalier sans faire le moindre bruit. Elles se mouvaient comme deux oiseaux planant dans le vent. Et leur voix ponctuait délicatement le silence, comme le mouvement invisible d'éventails en plumes de paon. J'ai trouvé des vêtements indiens accrochés dans mon armoire. Je ne les ai pas mis. Vois-tu d'où ils peuvent bien venir ? Dit Miss Aucline.
Non, lui répondit sa sœur, je n'ai jamais vu de vêtements indiens ici.
C'est étrange, dit Miss Aucline, ils sont à notre taille.
Je me demande d'où ils peuvent bien venir, dit l'autre Miss Aucline.
Il se passe beaucoup de choses bizarres ici, ajouta Miss Aucline.
Greer et Cameron échangèrent un coup d'œil. Ils avaient un nouveau sujet de réflexion. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le cadavre du maître d'hôtel, une surprise de taille les attendait. Une des demoiselles Aucline porta la main à sa bouche comme pour étouffer un hurlement. L'autre Miss Aucline devint aussi pâle qu'un fantôme. Greer soupira. Cameron se gratta l'oreille avec le doigt.
« Quoi d'autre maintenant » dit-il.
Ils restèrent plantés là à regarder le cadavre du maître d'hôtel. Ils le regardèrent ainsi pendant un long moment.
« Eh bien, dit finalement Greer, ça va faciliter l'enterrement. »
Le corps du maître d'hôtel était toujours étendu sur le plancher, mais il mesurait seulement 77 cm de long, et il devait peser environ 25 kilos. Le cadavre du maître d'hôtel géant était devenu celui d'un nain. Il disparaissait presque dans ses vêtements de géant. Les jambes du pantalon paraissaient vides et la veste formait une grande tente autour du cadavre du maître d'hôtel. Et à l'extrémité de cet énorme tas de vêtements, une tête minuscule surgissait de la chemise dont le col ressemblait à un halo. L'expression paisible d'un homme ayant rejoint son créateur n'avait pas disparu du visage du maître d'hôtel géant devenu nain. Mais naturellement, cette expression était beaucoup plus petite. Enterrer le maître d'hôtel devenait en effet beaucoup plus facile. Tandis que Greer creusait une petite tombe dehors juste à la limite du gel, Miss Aucline monta chercher une valise. Après les funérailles, accompagnées des regrets éternels prononcés comme il se doit sur la toute petite tombe et la petite croix, tout le monde retourna à la maison pour se réunir au salon. Greer et Cameron n'avaient plus leurs armes. Ils les avaient remises dans la longue valise étroite posée de nouveau à côté du porte-parapluie en forme de patte d'éléphant. Ils ne portaient d'armes que lorsqu'ils devaient s'en servir. Cameron remit du charbon dans le feu. Les demoiselles Aucline étaient assises côte à côte sur un sofa. Greer était assis en face d'elle dans un grand fauteuil dont les bras représentaient deux têtes d'ours. Cameron était debout devant le feu qu'il venait de recharger. Il faisait face à la pièce et au regard troublé de ses contemporains. Il regardait une table sur laquelle se trouvaient plusieurs carafes de liqueur en cristal taillé et des verres de cristal à longs pieds posés sur un plateau d'argent.
« Un petit rafraîchissement ne nous ferait pas de mal, » dit-il.
Miss Aucline se leva du sofa et elle alla verser des verres de xérès qu'ils se mirent à boire à petites gorgées. Elle retourna s'asseoir sur le sofa à côté de sa sœur. Tout était redevenu exactement comme avant la suggestion de Cameron, mais cette fois ils avaient tous un verre en main. Ils venaient de vivre un petit ballet à la chorégraphie délicate. Comme si l'on avait tiré plusieurs épreuves de la même photographie, et que sur l'une de ces épreuves figuraient en plus des vers de Xérès.
J'aimerais vous poser une question, dit Greer, s'adressant aux deux Miss Hawkline. Mais il but d'abord une gorgée de Xérès. Ils le regardèrent tous attentivement boire son Xérès. Il le garda un moment dans la bouche avant de l'avaler. « Avez-vous jamais entendu parler d'une personne nommée Magic Child ?» demanda-t-il.
« Non, » dit Miss Hawkline.
« Ce nom ne m'est pas familier, » ajouta l'autre Miss Hawkline. « Drôle de nom d'ailleurs, on dirait un nom indien. » Elle semblait un peu étonnée.
« C'est bien ce que je pensais, » dit Greer, jetant un coup d'œil à Cameron debout près de la cheminée. Le charbon brûlait silencieusement, la fumée s'élevait lentement au-dessus de l'énorme maison jaune dressée sur sa plaque de verglas tout au début de ce siècle. Comme il regardait Cameron, Greer remarqua soudain qu'une partie du feu ne brûlait pas et qu'une partie de la fumée ne s'élevait pas, mais restait à planer au-dessus de flammes de couleurs légèrement différentes et qui ne brûlait pas. Il songea à cet étrange reflet dans le lustre de la salle de billard. Ce feu qui ne brûlait pas ressemblait à ce reflet. Il cessa de regarder Cameron, et ses yeux se posèrent sur les demoiselles Hawkline, assises l'air un peu pincé sur le sofa. Qui est Magic Child et qu'avons-nous à voir avec elle ? Demanda Miss Hawkline.
Rien, répondit Cheer.
Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir la suite de ce roman de Richard Brautigan, Le monstre des Hawkline, ce roman un peu fou que vous pouvez vous-même terminer et que vous trouverez dans la collection 10-18. C'était aujourd'hui et ce soir donc ma dernière lecture avec vous. Je vous remercie de votre attention et de ces 3 ans passés ensemble. Merci et bonne soirée. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.